Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h41, dans quelques instants, vous pourrez nous appeler au 0826-300-300. On va revenir sur la vaccination avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel, Christine Bouillot sera sans doute aussi avec nous ce matin. Et tout de suite, on fait le point sur la presse. Et qu'est-ce qui fait parler ce matin?
Oui, absolument. Les journaux qui reviennent largement sur les questions autour de la vaccination, hein, Félix. Comment on accélère, se demande par exemple la Dépêche du Midi.
Oui, une rentrée difficile pour le gouvernement pris dans la polémique de cette incompréhensible lenteur de la campagne de vaccination en France. La colère d'Emmanuel Macron a retenti. Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran sont sous pression. Les premiers vaccinés dans les Pyrénées-Orientales, c'est la une de l'Indépendant catalan. Hier, à Prades et Perpignan, patients, personnel hospitalier, médecins ont été parmi les premiers en Occitanie à bénéficier de cette campagne de vaccination contre le Covid. Vaccination, le grand bazar pour la Marseillaise. Très critiquée sur la lenteur de sa politique vaccinale, eh bien, le gouvernement promet d'accélérer. En Provence, l'agence régionale de santé, en tout cas, n'a pas encore de chiffres précis à avancer. Course contre la montre pour Nice matin. La campagne a accéléré dans les Alpes-Maritimes, mais certains élus veulent accélérer encore la cadence. La Nouvelle République des Pyrénées nous explique que les premières doses n'interviendront que jeudi pour ce qui est des Hautes-Pyrénées. Mais on s'active, en tout cas, dans les trois établissements pilotes en Bigorre, dont l'EHPAD du Carmel à Tarbes, qui s'active pour préparer la campagne de vaccination et puis notamment aussi recueillir le consentement des résidents. Le vaccin arrive aujourd'hui en Auvergne, ça c'est ce que nous précise la montagne. Quant aux Parisiens aujourd'hui en France, ils posent la question à pourquoi ça bloque. Avec une interview du président de la région Hauts-de-France, la stratégie retenue nous conduit à l'échec, selon Xavier Bertrand, ce alors que les voyants sont au rouge pour une réouverture éventuelle des restaurants le 20 janvier.
Oui, absolument. On va poursuivre, merci Félix Mathieu. On poursuit du côté de Sud-Ouest avec Sébastien Marot qui est avec nous, chef des informations à Sud-Ouest. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Parmi vos informations ce matin, alors qui sont à la une?
Alors nous aussi, hein, évidemment, on parle de la vaccination, oui. Puisque la vaccination débutait hier en Nouvelle-Aquitaine. On est donc allé voir à Pau comment ça se passait, notamment. C'est là que le premier vaccin oui. a été administré. Et puis, on a interrogé le directeur de l'ARS, nous aussi, pour essayer de voir pourquoi ça bloque, pourquoi ça va pas plus vite, pour savoir combien il y a de doses disponibles, est-ce que ça va s'accélérer, est-ce que les médecins de ville vont aussi procéder à des vaccinations, est-ce que les pharmacies vont procéder à des vaccinations. Voilà, on est allé poser toutes ces questions au directeur de l'ARS.
Oui. Bon, ça fait partie effectivement des grandes préoccupations en fait du moment. On va en reparler d'ailleurs dans un instant dans le petit déjeuner d'actualité avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel et puis vos appels au 0826 300 300 et Étienne de Crolly, virologue, qui sera avec nous aussi à 9h. On pourra lui poser toutes les questions. Il y a un autre sujet qui fait quand même beaucoup causer du côté de Bordeaux, Sébastien Marot, c'est ce qui s'est passé ce week-end dans le quartier en fait, des Aubrais avec cette fusillade, un jeune qui est décédé et l'enquête qui continue.
Oui, c'est ça, c'est le quartier des Aubiers, c'est près du lac à Bordeaux. Effectivement, un fait divers tragique puisqu'un jeune de 16 ans a été tué par balle et... avec 40 douilles de balles, enfin bon, au pied des immeubles de cette cité des Aubiers. On y est allé hier pour voir un peu quelle est l'ambiance. Évidemment, c'était une ambiance glaciale. Ouais. Et puis, on a fait témoigner, on a un policier dans nos colonnes aujourd'hui qui témoigne et qui nous raconte. Il était dans l'équipe qui est arrivée la première sur les lieux. Il était dans l'équipe qui a essayé de sauver ce jeune en lui faisant un massage cardiaque. Et il nous raconte comment ça s'est passé, voilà, ce qui s'est passé, la foule qui était là au bas de l'immeuble, les cris, voilà, la peur des gens du quartier, une chasse à l'homme. Sur Internet, qui s'en est suivi. Bref, une ambiance un peu compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire dans ce quartier en ce moment.
Oui, oui, c'est ça, avec même des photos, hein, c'est ce que l'on disait en fait dans les journaux ce matin de Sud Radio, des photos de jeunes qui circulent, enfin de jeunes, de personnes auteurs de la fusillade ou suspectes en tout cas, qui circulent également dans le quartier.
C'est ça, ouais, des photos qui circulent. Et alors, cinq jeunes qui ont été interpellés hier par la police et qui ont été placés en garde à vue. Alors voilà, on verra si ce sont, ce sont les mêmes ou si ce sont les auteurs. On verra ça plus tard.
Oui. Merci beaucoup, Sébastien Marot. C'est Allure à lire dans Sud-Ouest ce matin, chef des informations à Sud-Est au journal. Donc, que vous retrouvez dans tous les kiosques ce matin ou également les éditions, évidemment, en digital.
Et puis dans le petit déjeuner d'actu ce matin, les Chabot, Elisabeth Lévive de Cardrel, vos appels 0826 300 300 et on revient sur la vaccination ce matin.
Oui, avec ce plan de vaccination, véritable lenteur, course d'escargot si je puis dire, pour certains qui ont caricaturé un petit peu Olivier Véran, le ministre de la Santé et le gouvernement. Arlette Chabot, alors là on attendait des explications un petit peu, vous l'avez dit dans, ce matin dans votre édito, hein, c'est-à-dire que ils essaient de corriger le tir au gouvernement pour dire on va accélérer. Est-ce qu'ils vont réussir? Qu'est-ce qu'ils annoncent ce matin?
Écoutez, c'est incroyable. 4484 vaccinations, c'est le nouveau chiffre de
la
France.
Beaucoup d'ironie évidemment
dans
votre
coup d'accélérateur incroyable. Alors, c'est vrai qu'on a bien fait de râler tous parce que pardon, on n'a pas critiqué pour critiquer. Ouais. Mais je veux dire, si les médecins se sont aussi un peu mobilisés, si beaucoup de Français ont dit qu'ils comprenaient pas ce qui se passait, c'est-à-dire pas grand-chose, eh bien, ça a été utile. Effectivement, on corrige. Il y a accélération de la vaccination des soignants, élargie aux pompiers, aux aides à domicile. Il y a l'annonce que les plus de 75 ans vont pouvoir aussi aller se faire vacciner. Alors ça, c'est dans les hôpitaux. Hein, parce que les...
Oui, c'est pas dans les EHPAD,
Non, c'est en dehors des
EHPAD. En dehors des EHPAD,
EHPAD, on va simplifier les procédures pour quand même accélérer. On s'est rendu compte que la logistique, c'était important. Un truc de fou, quand même, imaginez que des vaccins qui doivent être conservés à moins 80 degrés, bah c'était quand même super facile de les distribuer partout. Donc, il y a beaucoup de retard qui a été pris, effectivement, pour l'organisation de la vaccination. On corrige, on avance. Il y a juste encore un point de blocage, c'est que vraiment, le gouvernement ne veut pas laisser les élus locaux organiser les séances de vaccination.
Oui, parce qu'on avait parlé de vaccinodrome, quoi.
Alors,
et donc ça, c'est écarté.
Vaccinodrome, c'est très négatif, évidemment. Mais des centres de vaccination, comme la mairie de Paris, par exemple, le propose, mais tous les maires le proposent, ça, c'est encore non. Donc, il y a un effort du gouvernement, ce qui prouve qu'il faut toujours faire pression sur le pouvoir. Ça marche, quand même, il bouge, mais on n'est pas encore totalement dans une...
En ordre de marche,
d'une organisation. Voilà, la marche, pour l'instant, on marche lentement.
Oui, c'est ça. Oui. Je parlais d'escargot, effectivement, tout à l'heure. Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel, Elisabeth.
Allez-y, pardon.
Juste pour abonder dans le sens que disait Arlette Chabot, effectivement, on voit un certain nombre de personnels hospitaliers qui sont désormais vaccinés, les pompiers, tout ça, ce sont quand même des gens qu'on peut pousser un peu plus facilement à la vaccination. C'est pas vraiment du volontariat, même si ces gens-là sont évidemment volontaires, mais c'est du personnel sur lequel on a une certaine autorité, l'État a une certaine autorité, donc c'est un petit peu plus facile de faire gonfler les chiffres et de rattraper le retard vis-à-vis de l'opinion en quelques jours.
Oui. Elisabeth.
Moi, il y a deux choses qui me frappent, comme tout le monde, si vous voulez, c'est que nous disposons apparemment de l'administration la plus merveilleuse du monde et la moins efficace, ou une des moins efficaces, parce que tout de même les chiffres sont assez accablants. Mais d'un autre côté, ce qui me frappe aussi, c'est la difficulté pour le gouvernement, parce que on est tout de même dans une contradiction. Depuis trois jours, c'est le gros scandale, on vaccine pas assez. Puis quand on regarde les sondages, on voit que de toute façon, les gens ne veulent pas se vacciner. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va beaucoup vous choquer, mais moi, je crois que sur cette affaire, eh bien là, pour le coup, ça ne me choquerait pas que le gouvernement fasse preuve d'autorité et sinon rendre la vaccination obligatoire, subordonner un certain nombre de libertés retrouvées à la vaccination. C'est-à-dire, vous voulez pas vous vacciner, vous avez le droit, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas le droit d'aller au cinéma, etc., etc., quand ils ouvriront.
C'est-à-dire, ah bah, vous, qui êtes, vous qui êtes pour la liberté, en fait, totale.
Mais moi, je. Mais écoutez, je non, fais non, mais un bénéfice-coût-avantage. C'est-à-dire, oui, je pense qu'on peut retrouver notre liberté grâce à ce vaccin.
Si vous voulez, enfin, et pas... Ce vaccin-là ou les prochains qui vont venir.
Pas
quoi,
grâce
c'est ça,
à un
que...
vaccin. Oui, grâce, oui, 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 je ne parle pas de ce bien vaccin, sûr. Je veux dire grâce au vaccin, disons. Et que là, bah, il faut donner le choix aux gens. C'est-à-dire, effectivement, les gens peuvent avoir le choix de dire « je ne veux pas me vacciner », mais ils ne peuvent pas dire « je ne veux pas me vacciner et je veux que tout le monde soit enfermé parce que je ne veux pas me vacciner ».
Alors, tout le monde ne veut pas dire ça non plus, hein, parce que, donc, il y en a, grosso modo, c'est du 50-50, quoi. Mais par rapport, peut-être, à ce vaccin, Arlette Chabot.
Ce qui est important, c'est déjà, ça, c'est une autre ouverture faite par Olivier Véran ce matin, c'est qu'il annonce qu'on va, les volontaires, ceux qui veulent se faire vacciner, vont pouvoir le dire et se faire connaître sur un site qui va être dédié un peu, peut-être ça va être un prolongement de cette application anti-Covid. Oui. On pourra le faire savoir. Donc c'est quand même un geste en faveur de ceux qui veulent être vaccinés, alors que depuis le début, la stratégie du gouvernement était plutôt d'entendre ceux qui sont hostiles, effectivement, à la vaccination.
Mais le faire savoir pourquoi prudence.
Donc là aussi, il y a quand même une évolution. Alors, on peut saluer les évolutions, c'est un début... On n'est pas, effectivement, on est loin de l'obligation que refuse absolument le gouvernement, mais on peut aussi imaginer qu'il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que si on voit des gens qui vont se faire vacciner, s'il y a un peu d'exemplarité, d'ailleurs on attend toujours que le Premier ministre, par exemple, se fasse vacciner devant tout le monde, ça peut aider quand même, il y aura sans doute un effet d'entraînement, et du coup, bah, le nombre de Français favorables à la vaccination va sérieusement augmenter.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Arlette Chabot vient de dire, à contrario, je suis en désaccord complet avec ce que Elisabeth a suggéré, c'est-à-dire de rendre la vaccination obligatoire d'une certaine manière, comment dire, il faut regarder les sondages. On a toujours eu une dose de méfiance en France à l'égard des vaccins qui représentait à peu près 45% de la population. Et effectivement, avant que la campagne vaccinale commence, les derniers chiffres étaient à 53% comment dire, 53% de gens qui étaient prêts à se faire vacciner. Avec les ratés du début de la campagne vaccinale, on est tombé à 40%. Ça veut dire que ces ratés ont créé une certaine défiance. Et comme le propose Arlette, si on recrée la confiance par l'exemple, par l'exemplarité, à ce moment-là, il y a pas besoin d'utiliser des méthodes autoritaire.
Bah écoutez, on verra mon chéri s'il y a besoin ou pas. Moi ce que je dis, je ne dis pas qu'il faut le rendre obligatoire, je dis qu'il faut être conséquent. C'est-à-dire, vous ne voulez pas vous faire vacciner, encore une fois, c'est votre droit. Mais nous, ce qu'on veut, c'est tout de même collectivement reprendre une activité. Or, pour reprendre une activité, il faut qu'il y ait une proportion notable de la population qui soit vaccinée. Donc, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, c'est votre droit, mais ça suppose un certain nombre de contraintes.
Bon, en tout cas, on en est encore loin parce que...
On en est encore loin
parce que nous sommes, je crois, 65 millions, c'est ça en France, et là on est à 5
000.
Vous voyez un petit peu le delta.
Je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est-à-dire que ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est une double chose contradictoire, c'est à la fois d'être mou du genou et d'être impuissant, si vous voulez, en grande partie face à cette épidémie, et de faire preuve d'un autoritarisme assez stupide. J'ai donné hier l'exemple, je sais pas, des arrêtés du 31 décembre. Donc, là, je trouve que ce serait raisonnable, non pas de le rendre obligatoire, mais de mettre un certain nombre de conditionnalités.
Allez, on va au standard.
Au standard, 0826 300 300 avec Frédéric qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis très content de passer. J'aime beaucoup Elisabeth Lévy. Parce qu'elle a aussi
mauvais caractère.
Ouais. Elle a aussi mauvais caractère que moi. Donc
c'est ça, c'était le mot de trop. Hein. Oh.
Non, mais quand elle balance, elle balance. Ouais,
bon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, mais voilà. C'est vrai. Oui, absolument. Et Frédéric, vous, alors, votre opinion par rapport justement à cette vaccination en France, ouais.
D'un côté, moi, j'aime pas qu'on m'oblige effectivement à faire certaines choses, mais pour l'histoire des, pour l'histoire de l'obligation, c'est tout à fait. C'est tout à fait normal d'obliger à un certain moment. Évidemment, Arlette Chabot, bon, quand même pas extrêmement virulente la plupart du temps, Monsieur de Cardrel non plus, on est vraiment dans l'esprit français. Moi, j'ai travaillé 8 heures dans un EHPAD. Est-ce que vous croyez qu'on s'amuse à demander aux personnes qui ont entre 75 et 95 ans, lorsqu'ils ont un trouble quelconque, on leur demande est-ce que vous voulez qu'on vous donne votre traitement pour l'attention? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne votre traitement pour, le Parkinson? On s'aperçoit que monsieur ou madame Duchemin ne boit plus depuis 2 jours. Bon, mais très bien, on lui met une perce sous-cutanée la nuit. On lui demande pas son avis. En tant que soignant, on m'a pas demandé mon avis pour me dire qu'il fallait que je me vaccine contre l'hépatite B. Les gamins, quand ils veulent aller à l'école, c'est diphtérie, tétanos, polio, rougeole obligatoire. Au service militaire que j'ai fait, moi, j'ai fait partie de cette catégorie. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis pour faire la vaccination contre la typhoïde? Si je vais en Guyane, est-ce qu'on me demande mon avis pour vacciner contre la fièvre jaune, etc., etc. Donc cette obligation, elle est importante. Les 2500 inconscients qui sont allés donc à Lioron l'autre jour et qui vont de toutes les manières contaminer d'autres personnes derrière, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu les obliger tout simplement les obliger à ne pas faire leur fête? On coupe le courant dans la zone, ils ont
ouais, ou alors les tester quoi, vraiment. Après il y a eu plein de petites fêtes un peu partout, c'est pas pour les excuser, surtout pas, mais on peut comprendre que les jeunes en fait
les jeunes n'ont pas d'excuses à un certain moment. Non, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut avoir des excuses tout le temps. Ça va bien 5 minutes. Les jeunes là qui ont assassiné un autre gamin dans la cité des Aubiers dont vous venez de parler, ceux qui les ont assassinés, on a accepté, on les a laissés grenouiller pendant des mois, pendant des années dans la criminalité, sans les obliger à quoi que ce soit, sans leur mettre une mesure qui les arrête. Donc je fais ce parallèle un peu fort avec la vaccination. La vaccination, même si moi je n'y étais pas du tout favorable au début, comme vous l'avez dit par rapport à l'incroyable amateurisme de notre gouvernement, je n'avais pas confiance dans ces vaccins. Et puis je me suis dit, je vais écouter. J'ai écouté différents médecins. Alors les médecins qui ne sont pas les plus hargneux, les plus agressifs, et auxquels, des gens comme le professeur Juvin, monsieur Gilbert Deray, des gens comme ça. J'ai un oncle qui est médecin aussi, et petit à petit, j'attrape des éléments qui me montrent que ces vaccins sont effectivement certainement bien faits. Ils ont été faits très rapidement, puisqu'apparemment, on bénéficie de 20 à 25 ans de recherche de possibilité d'arriver à mettre en place des vaccins beaucoup plus rapidement. La technique ARN a commencé à être testée dans les années 90. Voilà. Tout ça, ce sont des choses que j'ai apprises donc petit à petit.
Et Frédéric,
j'ai parié avec mes parents qui ont 85 et 86 ans qu'au 30 juin, ils ne seraient toujours pas vaccinés. J'ai parié un repas au restaurant avec eux.
Rouvriront. Frédéric, je vous propose de rester avec nous parce qu'on a justement un virologue, spécialiste, Étienne de Crolly, qui sera là dans un instant pour répondre à tout ce que vous avez déjà bien abordé, évidemment. On va continuer le petit déjeuner de l'actualité. Restez avec nous. Et donc, ce virologue qui sera avec nous, Étienne de Crolly, enseignant à l'université d'Aix-Marseille.
Oui, et puis vous continuez bien sûr à nous appeler 0826 300 300 comme Frédéric, on vous attend au standard. À tout de suite. Avec 12
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et continue le petit déjeuner de l'actu, toujours avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, de Cardrel, Frédéric de Bordeaux qui est avec nous en ligne, et Étienne de Crolly qui est virologue au CNRS et enseignant à l'université d'Aix-Marseille.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Étienne de Crolly. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu Frédéric, qui était juste avant le flash, qui nous disait que lui, dans un premier temps, il n'était pas forcément favorable en fait au vaccin, mais il a travaillé dans des résidences pour personnes âgées, etc. Et il a écouté en fait beaucoup de spécialistes, dont vous peut-être, et aujourd'hui il est convaincu, notamment pour une partie de la population, de cette nécessité de vaccination à terme. Étienne de Crolly, quels sont, vous, les arguments aussi pour cette vaccination?
Je crois qu'on voit bien qu'on a une grande difficulté à contrôler et à contenir l'épidémie actuellement. Et on a parlé depuis le début de l'épidémie qu'une des méthodologies pour contenir l'épidémie, c'est d'atteindre l'unité de groupe. Et on comprend bien que atteindre l'unité de groupe simplement en ayant les personnes qui sont contaminées, ça implique un très grand nombre de morts. Et donc la vaccination est l'autre alternative pour atteindre rapidement l'immunité de groupe. Et donc, je crois qu'effectivement, c'est tout à fait un enjeu fondamental d'arriver à vacciner rapidement les populations de manière à ce qu'on puisse sortir de la difficulté très grande dans laquelle un grand nombre de gens sont actuellement.
Et encore un mot, hein, peut-être aussi, pour répondre à l'inquiétude de certains et au scepticisme par rapport en fait, au vaccin, à l'ARN messager. On travaille depuis des années déjà sur la recherche en fait, autour des coronavirus et des vaccins. On ne travaille pas que depuis 6 mois, un an, quoi.
Oui, bien sûr, la recherche du vaccin a bénéficié d'études qui avaient été faites sur le SARS qui avait émergé en 2003 et donc qui avait poussé des vaccins jusqu'à des essais précliniques, mais qui avaient été abandonnés dans la mesure où l'épidémie s'était éteinte. Donc il se fait que cette fois-ci, l'épidémie n'est pas du tout en passe de s'éteindre et donc les recherches ne sont pas parties de zéro, mais sont parties sur des bases solides qui avaient démontré, entre autres, qu'un des antigènes majeurs pour la vaccination était la protéine Spike, qui est utilisée ici, et d'autre part, sur des technologies de vaccins ARN qui sont effectivement en développement depuis une vingtaine d'années et pour lesquelles il y a quand même des essais sur animaux qui ont été faits largement, mais également des essais chez l'homme dans d'autres types de pathologies, des essais cliniques de phase 1 au moins, qui avaient montré des succès, pour lesquels on a un recul qui est maintenant suffisant.
Ouais. Bon, de toute manière, on ne vit pas dans un monde parfait, hein. Il y a toujours aussi des risques, quoi qu'il en soit. Alors d'autant, ce qui est inquiétant, c'est ce qui se passe peut-être en Grande-Bretagne, hein, Étienne de Crolly, avec la contagion qui s'accélère, qui va beaucoup plus vite. Le virus, visiblement, n'est pas plus dangereux en tant que tel, mais il va plus vite. Hein, c'est ça. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle souche mutante, justement ?
Mais ce qu'on observe, effectivement, c'est que en à peu près un mois, cette chose qui était minoritaire est devenue majoritaire dans la population britannique, ce qui indique effectivement qu'il a une capacité de propagation qui est plus élevée, et donc ça peut résulter de différents effets. Ça peut résulter du fait que le virus, il est plus capable de rentrer dans les cellules, donc mieux s'y répliquer, donc d'augmenter la charge virale, et donc ainsi mieux se transmettre, parce que tout le monde comprend que si on a plus de virus chez un patient infecté, ben, il va être plus à même de contaminer d'autres personnes. Et donc, les études épidémiologiques démontrent bien que c'est le cas. Et donc, une des questions, effectivement, en lien à cette question et à la question de la vaccination dont on parlait tout à l'heure, est de savoir dans quelle mesure ces mutations qui sont apparues dans ce variant, je rappelle qu'il y a 14 mutations qui sont apparues dans ce variant, alors toutes les mutations ne vont pas impacter le vaccin. En fait, il y a probablement parmi l'ensemble des mutations, il y a seulement 8 mutations qui impactent la protéine Spike qui est contenue dans le vaccin. Et dans ces mutations, il y a probablement 2 mutations, une délétion qui joue un rôle majeur dans l'antigénicité des vaccins.
Oui.
Donc la question qu'on peut se poser, c'est évidemment, est-ce que le vaccin va être aussi efficace ?
Ben voilà, c'est ça. Et ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse, quoi, bien sûr. Hein.
On a des réponses partielles, parce qu'on a d'abord des réponses théoriques. On sait que quand on utilise un vaccin et que quand on présente un immunogène au système immunitaire, il va développer des anticorps qui vont reconnaître différentes parties de la protéine qui est présentée. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si on présentait un ballon de foot au système immunitaire. Eh ben, il ne va pas avoir des anticorps qui vont reconnaître qu'un des petits losanges du ballon de foot, mais finalement, on va avoir des anticorps qui vont reconnaître l'ensemble des losanges. Et pour continuer l'analogie, eh bien, c'est un petit peu comme si aujourd'hui, le mutant, c'est il y a 3 losanges du ballon de foot qui ont changé de couleur et donc vont être beaucoup moins bien reconnus par les anticorps du système immunitaire, mais il reste l'ensemble des autres losanges qui vont être reconnus. Et donc, pour l'instant, il y a des études qui sont en cours justement pour montrer dans quelle mesure il y a un impact ou il n'y a pas d'impact significatif sur la neutralisation qui est acquise d'une part chez les personnes qui ont été infectées précédemment et d'autre part chez les personnes qui ont été vaccinées.
Et on peut faire évoluer aussi, Étienne de Crolly, vous qui êtes virologue et spécialiste, on peut faire évoluer aussi un vaccin dans les mois face à la mutation d'un virus ?
Absolument. Alors ça dépend des technologies de vaccination qui sont utilisées. Vous savez que prochainement, il y aura probablement le vaccin AstraZeneca qui va également être mis sur le marché et qui est complètement différent du point de vue technologique des vaccins ARN, donc le Moderna et le Pfizer. Et un des avantages importants du vaccin ARN, c'est que le délai est relativement bref entre le moment où on observe un variant et le moment où on peut éventuellement faire des modifications dans les préparations vaccinales de manière à immuniser avec ce nouveau variant. Je crois que Pfizer a annoncé qu'il lui fallait environ 6 semaines pour faire ces modifications. Et donc, j'imagine qu'ils sont en train de préparer éventuellement d'autres types de vaccins qui pourraient rentrer en essai clinique.
Oui, et cette souche britannique, notamment Étienne de Crolly, donc on l'a vu apparaître un petit peu en France, localisée en fait à Tours, ensuite à Bayonne avec les joueurs de rugby, là on parle de Corse. Est-ce que inévitablement, inexorablement, elle va se développer en France ou est-ce qu'on peut réussir à contenir ?
Ben, je crois qu'on pourrait réussir à contenir si on faisait de manière beaucoup plus efficace la technique du dépistage, du traçage et surtout d'isoler les personnes qui sont contaminées. Or, on voit que depuis l'épidémie, on a beaucoup de mal à mettre en place ces mesures de manière suffisamment efficace en France. Et donc, en absence de ces mesures, je crois que malheureusement, on va avoir beaucoup de mal à contenir ce variant qui est quand même caractérisé par une augmentation du R0 entre 0,4 et 0,7, ce qui est très significatif.
Oui, et donc ça risque de se produire dans les semaines qui viennent, dans les 2-3 semaines qui viennent, c'est ça le développement ou pas pour la fameuse troisième vague que l'on redoute, elle pourrait s'accélérer avec ça ?
Oui, je crois qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a entre 3 semaines et 1 mois et demi de retard par rapport à l'Angleterre sur cette souche-là, et que donc probablement que si cette souche continue à se propager, eh bien effectivement, elle devrait devenir importante dans la transmission autour du mois de février-mars.
Oui, mois de février-mars, donc probablement donc des mesures. Ce que vous dites, hein, c'est qu'il faudrait mettre en place, dépister. Mais on peut peut-être y arriver quand même, non ? Ou j'ai l'impression qu'on se dit, on le sait, on la voit venir, mais qu'on n'arrive pas peut-être à prendre les mesures adéquates. Ou est-ce que, quoi qu'il en soit, on n'y arrivera pas à la contrer ?
Non, c'est vraiment une question de volonté politique et de mise en place de moyens d'isolement, j'insiste là-dessus.
Oui, oui.
Aujourd'hui, notre grande faiblesse, ce n'est pas tellement le dépistage, même si on a eu trop de délais dans la remise des résultats. Mais la faiblesse, en fait, du système actuel, c'est surtout qu'on n'est pas en capacité d'isoler les personnes qui sont dépistées positives. Et quand je dis isoler, ça veut dire qu'il faut des structures d'accueil pour ces gens-là, qu'il faut que ces gens ne sortent plus et qu'il faut être beaucoup plus proactif sur ces aspects-là.
Oui, on a parlé il y a quelques jours d'une contamination plus forte aussi des enfants qui étaient plus épargnés jusqu'à présent avec la souche traditionnelle et là, cette fois-ci, avec le virus mutant britannique. Qu'en est-il exactement ? Qu'est-ce que vous en savez pour l'instant, Étienne de Crolly ?
Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de chiffres très précis qui circulent à ce sujet-là, mais ce qu'on comprend bien, c'est qu'évidemment, si les patients ont des charges virales plus élevées, eh bien, ils vont contaminer davantage de personnes. Et ce qu'on sait également, c'est que quand on est contaminé avec des charges virales plus élevées, eh bien, le risque de faire des maladies plus sévères est plus important. Et donc, c'est pour ça que ces isolaviraux sont vraiment à surveiller et qu'il est important qu'on ait davantage de réactivité. Et surtout, il faut qu'on déploie la campagne de vaccination à beaucoup plus grande vitesse. Et j'entends qu'il y a un débat très important sur une partie des Français qui ne veulent éventuellement pas se faire vacciner, mais il y a à peu près la moitié des Français qui veulent se faire vacciner. Vaccinons déjà rapidement ces personnes-là et petit à petit, les Français verront qu'il n'y a pas de risque important à cette vaccination et prendront probablement le train en marche parce qu'ils verront les bénéfices de la vaccination.
Oui. Est-ce que vous avez été surpris et déçu par la lenteur du début de cette campagne de vaccination en France ?
Oui, je crois que ce qu'on voit, c'est que l'histoire se répète, c'est que la difficulté actuellement du système de santé français est pas tellement la prise de décision, mais plutôt la mise en place sur le terrain des décisions qui ont été prises. Et on voit que ça a été le cas pour les tests PCR, on voit que ça a été le cas pour l'isolement des patients, et on voit que c'est également le cas pour le développement des vaccins. Et je crois que vacciner rapidement 40 millions de Français, si c'est ça l'objectif, eh bien, ça demande de mettre des moyens en place très très sérieux, avec probablement des structures prêtes à accueillir au moins sur base volontaire.
L'équivalent des vaccinodromes. Alors bon, le terme est peut-être pas beau, mais c'est un peu ça, quoi. Mettre des salles à disposition et peut-être même solliciter les militaires, comme le demandent aussi certains. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne de Crolly ?
Oui, alors c'est pas à moi à décider.
Non, c'est vrai.
Voilà, moi, ce genre de choses.
Bien sûr.
Moi, mon avis, c'est qu'en tout cas, il y a des gens qui veulent se faire vacciner en France et que ces gens-là, il faudrait qu'ils puissent avoir très rapidement à disposition les vaccins et se faire vacciner. Et ça démontrera que ce vaccin a une efficacité et que l'immunité est assez bonne. Et je suis persuadé que ça sera un vecteur puissant pour que l'ensemble de la population adhère davantage à la vaccination.
Bon, bah, écoutez, merci Étienne de Crolly. Arlette Chabot qui vous a écouté. Vous êtes convaincu justement par ce que disait Étienne de Crolly, et donc la nécessité d'accélérer, parce que je sais qu'on le sentait bien à travers vos propos tout à l'heure, Arlette, vous étiez en colère contre les retards de la vaccination, effectivement, en France. Quoi.
On revient toujours à la base. Hein. Ouais. Soit le gouvernement croit à la vaccination, et on l'organise bien, et on encourage les Français à se faire vacciner. Ouais. Ouais. Soit il n'y croit pas, et il ne fallait pas se lancer dans cette campagne. Mais maintenant, il l'a lancé, on est en retard, il faut rattraper le temps perdu et donner encore une fois des signes en direction de ceux qui disent « mais moi, je veux me faire vacciner ». Allons-y, donc accélérons, comme dit le gouvernement, le mouvement. Et franchement...
Les EHPAD et le personnel soignant, et peut-être même au-delà, Étienne de Crolly, vous êtes toujours avec nous.
Tous
les volontaires, on parlait ce matin, je posais la question à Manon Aubry, qui était notre invitée, des personnels aussi qui sont en première ligne, par exemple les enseignants. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers aussi ces personnes dans les semaines qui viennent, Étienne de Crolly? Parce qu'ils sont en contact des enfants et il y a toujours des activités dans les écoles.
Oui, bien sûr. Moi, je dirais que ma recommandation serait que rapidement, l'ensemble des personnes de plus de 50 ans qui décident de se faire vacciner puissent avoir accès très rapidement à la vaccination, avec des priorités sur les personnes très âgées, parce qu'on voit que c'est là qu'est le problème principal dans les hôpitaux. Puis, les personnes qui sont au contact de public avec un gradient de risque, évidemment, d'abord les médecins et les aides-soignantes, et puis probablement les enseignants, et ainsi de suite, en fonction du nombre de personnes finalement qu'on contacte par jour.
Merci beaucoup, Étienne de Crolly, virologue au CNRS et enseignant à l'Université d'Aix-Marseille. On pourra réécouter, évidemment, en podcast votre intervention. Merci Arlette Chabot, Yves de Kerdred, Elisabeth Lévy et les auditeurs. Frédéric, pardon, qu'on n'a pas repris. Je ne sais pas s'il était en fait encore en ligne, mais qui avait bien planté le décor tout à l'heure, juste avant 9h, pour notre petit déjeuner de l'actualité, qu'on va poursuivre dans un instant.
Oui, avec notre invitée, c'est Vanessa Codacioni, qui est historienne et politologue, maître de conférence pour ce livre « Répression, l'État face aux contestations politiques » aux éditions textuelles, sera avec nous. Vous voulez parler justement de cette société de vigilance.
Ah oui,
vous
nous appelez... autosurveillance, délation, haine sécuritaire, et ça prend de l'ampleur, beaucoup, ce débat. Donc c'est particulièrement intéressant, on en parlera dans un instant.
Restez avec nous, 0826 300 300, vous attend au standard, à tout de suite, 9h18.